Chapitre 6 Le morne dimanche. Pâques avait été tardif. On était au 22 avril et les cloches sonnaient la grand-messe du dimanche de Quasimodo. Depuis 8 jours, le carême était fini. Qui l'avait observé? Le sacristain Padovan, ancien éclusier du canal du Nivernais, impotent, ventru, tirait la corde dans le transept de gauche, en considérant les 6 vases de porcelaine qu'il venait d'aligner sur l'autel, et d'où s'élevaient 6 palmes d'or avec des roses d'or. Il observait qu'il avait tourné une des palmes à l'envers, et il levait l'épaule, plus haut qu'il n'eût fallu, en laissant filer la corde de la cloche, murmurant contre lui-même. « Imbécile, pour une fois que tu les tires de l'armoire, ne pas les mettre le ventre en avant ? Vont-ils venir aujourd'hui, les paroissiens de M. le curé ? Le jour de Pâques, j'en ai compté 92. Oui, et de femmes mécréants parmi eux. Ils viennent à Pâques, à la Toussaint et aux enterrements. Mais un jour de Quasimodo ? Ah, M. le curé peut bien retarder sa messe et me laisser sonner. Je le vois qui me fait signe. Hardi, Padovan, à quoi ça sert ? Il y en a 7 dans l'église. » Pauvre curé de Fontenay, va. L'enfant de cœur boutonnait lentement dans la sacristie sa soutanelle rouge. L'abbé Roubio revêtait ses ornements. La flamme des cierges montait dans le jour, et on l'eût aperçu à peine si le vent, glissant par les fentes des vitraux, par les portes, par les trous de la voûte, n'eût couché ses pinceaux de lumière jaune. Et alors, tout au bout, un petit tourbillon de fumée indiquait la présence et la vie du feu. « Bonnes gens, disaient les cloches, le Christ est ressuscité. Il a souffert, il est remonté à la vie. Faites comme lui. Venez, les méprisés, les petits, les malheureux, c'est-à-dire tout le monde, et reprenez la vie nouvelle sur laquelle aucune mort ne prévaudra plus. Venez, j'ai appelé vos pères et ils sont venus. Je vous appelle. » Dans la tour, aux voûtes écrasées, blocs de maçonnerie qu'éclairaient à l'orient les 3 vitraux du chœur, dans ce morceau conservé d'une église plus vaste à laquelle on avait enlevé la nef, le son des cloches se heurtait en échos confondus comme des fumées qui se pénètrent et mêlent leurs volutes et montent ensemble et luttent souplement. Elle répandait au dehors les rappels, et là, sans lutte, dans le grand ciel ouvert, les belles ondes de musique s'envolaient. Elle se dénouait en écharpe sonore au-dessus des maisons, au-dessus des herbes, des bois à demi vêtus, des eaux qui recevaient leurs mots clairs et qui frissonnaient jusqu'aux profondeurs. Mais les hommes ne venaient pas. Quand le curé sortit de la sacristie et monta à l'autel, il y avait pour toute assistance 4 femmes, 1 enfant, le petit Élie Gombeau, le fils de l'éclusier socialiste, le père 19, ancien sergent de Zouave, Michel de Meximieux, son valet de chambre, et le sacristain Padovan, sac à vin, corne sacrée, qui chantait. Quasi modo geniti infantes, alléluia, rationabile, sine dolo lac concupiscite, alléluia, alléluia, alléluia. Où étaient ceux qui ne chantaient pas l'alléluia? Quelques-uns travaillaient, comme si leur fatigue de 6 jours n'était pas appelée aux vacances divines du 7e. Ils cassaient les mottes d'un champ, ils rabotaient sur l'établi ou faisaient rougir le cercle de fer d'une roue de charrette. D'autres, bien plus nombreux, entraient déjà dans les auberges, soit dans celles du village, soit dans celles des villages voisins, et ils buvaient de mauvais alcools qui rongeaient leurs veines, et ils échangeaient des propos où aucune joie vraie et saine ne se développait, plaintes, menaces, commérages, plaisanteries qui suaient la haine, la bassesse ou la lubricité. D'autres, inoccupés, assis dans leur maison, devant le feu, attendaient que l'heure fût venue de manger, de sortir, quand le père ou le maître rentrerait et d'aller, comme lui, boire. Les jeunes filles s'habillaient pour le bal et lissaient leurs cheveux ou les frisaient, et, pensant aux galanteries des dimanches passés, se plaisait au trouble que le souvenir éveillait en elle. L'instituteur, secrétaire de la mairie, essayait d'évaluer, pour la statistique officielle, le nombre des oies, poules, canards, porcs, dindons de la contrée, et il en faisait agréablement varier le chiffre en consultant les colonnes des années précédentes, diminuant ou augmentant, avec un sourire amusé, la richesse animale de la commune. Un domestique de ferme, ancien mineur venu du Calvados, brouillé avec son père qui lui reprochait d'être trop dépensier, disait à cette heure même au fermier de Semelin, son patron. « Donnez-moi 25 francs, j'ai besoin d'aller acheter des bottes à Saint-Sauge. » Et il se mettait en route, résolu à ne pas acheter de bottes et à dépenser 25 francs. C'était la quatrième paire de bottes qu'il achetait de la sorte depuis le commencement de l'année. Quatre jeunes hommes, portant un carrelet et des lignes, partaient pour aller pêcher en contrebande dans l'étang. Un éclusier, las d'avoir ouvert 5 fois l'écluse en cette nuit du samedi au dimanche, à des bateaux berrichons qui remontaient par le canal du Nivernais, ronflait dans les draps du lit défait, tandis que la mère, épuisée par la fièvre, exsangue, usée par la misère d'une vie sans trêve et sans nul espoir, habillée, lavée et bourrée dans la chambre moite d'une buée d'air trop respirée, 5 enfants qui criaient. D'autres partaient à bicyclette pour voir des femmes. Toute cette population, désœuvrée pour un jour, cherchait à s'évader de sa condition ordinaire, et, ne pouvant y réussir que très peu, elle enviait la richesse comme une puissance souveraine, celle des bois, celle des châteaux, celle qu'on peint dans les feuilletons, celle que racontent les livres. La comparaison s'exaspérait dans la solitude et dans les conversations. Le fond de la bête humaine, orgueilleuse et violente, se trahissait par des mots, des gestes, des regards. On haïssait partout, plus ou moins. Le passant inconnu qui eût traversé le bourg en ce moment aurait été haï. Des noms de légende étaient prononcés et salués de malédictions et de mépris. Les seigneurs, Louis XIV, Rothschild, les exploitants, l'État aussi, qui paie mal et qu'on commençait à vouloir remplacer par un autre État qui paierait mieux pour moins de travail et, s'il se pouvait, qui paierait la vie, les aises, les plaisirs, dans le bourg, dans le département, partout, sans que personne fût obligé de travailler. Des filles laides songeaient qu'avec un chapeau de 30 francs, elles eussent été jolies. Le rêve impossible et grossier abrutissait des âmes dont beaucoup eussent été fières et fortes si on les eût élevées. C'était le dimanche rural, chef-d'œuvre de l'ennui, quand la prière a disparu. Le curé disait la messe, et il éprouvait une souffrance indicible en devinant la solitude derrière lui, autour de lui, partout. Solitude de l'église vide de fidèles, solitude des âmes vides de la grâce de Dieu. Et c'était un morceau de France. Quand la messe fut finie, l'abbé Roubio était si pâle que la vieille Périne, la dernière fileuse du bourg, le voyant rentrer dans la sacristie, chancelant, les yeux baissés, dit à mi-voix. « On nous a envoyé un curé qui est comme Malaine. Il ne se tient pas debout. Ces morvandiaux, je leur croyais plus d'eau. » Il eut peine à faire son action de grâce. La tête dans les mains, et seul à présent sous la voûte de la tour où se reposaient les cloches immobiles, il n'entendait ni les cris des gamins jouant sur la place, ni les pattes des pigeons qui égratignaient, en glissant, les ardoises du toit de l'église. Il entendait son âme qui se jetait d'un bout de l'horizon à l'autre et du passé à l'avenir, comme la foudre, en grondant, et qui criait. Qu'ont-ils fait, ceux qui ont eu ici la charge d'évangéliser? Est-il possible que 6 prêtres aient passé dans un siècle et n'aient pas remué cette cendre? Se sont-ils résignés? Ont-ils été pris, eux aussi, du sommeil de la mort? ou bien ont-ils vécu 5 ans, 10 ans, dans la douleur où je suis? Dieu, que c'est horrible ce désert d'âme! Que je voudrais revenir en Morvan, être transporté par des ailes en Vendée, en Auvergne, en Bretagne, dans les plaines du Nord, n'importe où, pourvu qu'il y ait des âmes vivantes autour du Dieu vivant. L'Alléluia est tombé dans le vide. Tous les péchés tiennent la campagne et l'empêchent de chanter. Ô mes anciens, je vous admire au contraire d'avoir pu vivre où j'étouffe. Vous avez au moins commencé votre œuvre, essayez. Et moi qui accuse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu dans le presbytère, en veillant, des heures qui ont sonné dans la solitude. Quelle faute! Depuis 6 mois que je suis curé de Fontenay, j'ai eu dans le secret, entre vous et moi, mon Dieu, beaucoup d'amour pour eux, mais je ne l'ai pas assez dit. Il n'est pas possible que rien ne vive. D'ailleurs, j'ai le pouvoir de ressusciter, puisque mon maître l'a. J'irai. Dieu sortira de son temple. Je parlerai au premier de mes paroissiens que je rencontrerai. Je voudrais tant les connaître. Mais nous n'avons aucun lien, si ce n'est l'église, où ils ne viennent plus. Rien de commun. Ni le cabaret, ni le bois, ni la ferme. Si quelqu'un m'aidait, ce jeune monsieur de Meximieux, je ne lui ai fait qu'une visite, je me suis écarté du château parce que toutes les masures sont jalouses. Non, j'irai seul, je suis seul, je leur porterai ma marchandise sainte qui est la paix. M'écouteront-ils? Ce n'est pas de l'insulte que je dois avoir peur, c'est de ce silence autour de moi. Ayez pitié. Le visage mouillé de larmes, il se leva, frotta ses yeux avec l'essuie-main pendu dans la sacristie, à côté de la fontaine de faïence verte, et ouvrit la porte de la tour. Entre la première marche et le mur, un brin de giroflée avait poussé. Il inclina sa tête au vent, sous les pieds de l'abbé, qui entendit la caresse de la fleur et dit: « Je te remercie de remuer pour moi. Les hommes n'en font pas autant. » Il traversa la place. Elle était vide. Dans les auberges, derrière les vitres, des buveurs l'épiaient et devisaient sur lui comme ils eussent fait sur tout autre objet encore nouveau pour eux. L'abbé ne les vit même pas. Le presbytère était là, tout près, en face de l'église, de l'autre côté de la route. Monsieur Roubiot ouvrit la barrière à claire-voie, autrefois blanche, à présent salie par les mains, fit quelques pas dans l'allée, perpendiculaire à la route et qui longeait la maison, et, au moment où il passait devant la porte de la cuisine, il fut presque heurté par un gamin qui en sortait, tête basse, en courant, un panier vide au bras. En apercevant l'abbé, l'enfant s'arrêta net, éleva dans le soleil sa figure rousselée, vivante, épanouie, qui renvoyait, comme une pomme ronde, toute la lumière tombant sur elle. L'abbé considéra un moment cette jeunesse comme s'il eût regardé un cerisier en fleurs, un tableau qu'on lui aurait dit être de Raphaël, une église neuve, un glacier, ou la mer qu'il aimait sans l'avoir vue. Il reposait son âme lasse sur ce petit homme frisé, qui n'avait pas la méchanceté des grands, ni leur dureté de cœur. Du moins, il le croyait. Il ne lui demanda ni de qui il était, ni ce qu'il venait faire, ni comment il s'appelait. Mais pendant que l'enfant attendait, tout prêt à répondre justement à ses questions prévues, il lui mit la main sur le front et, avec le pouce, lentement, pieusement, il traça le signe de la croix. Le petit comprit que cela signifiait « Va-t'en, petit béni !» et il s'échappa. « Bonsoir, monsieur le curé !» La barrière claqua derrière lui. « Un sacré gamin que sa mère envoyait quêter des œufs de Pâques !» dit la servante en apparaissant sur le seuil de sa cuisine. « Oui, elle demandait des œufs, la gueuse de pauvre, parce que son fils aîné, dans le temps, était enfant de cœur. Ah, je l'ai galopé, le petit !» « Vous avez eu tort, Philomène. »« « Oui, je sais bien, on vous mangerait votre pain dans votre assiette que vous ne diriez rien. On voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Ah, vous ne les changerez pas, allez. Vous voulez dîner? C'est prêt. » « Non, Philomène, je monte dans ma chambre. Je vous préviendrai quand j'aurai faim. » Il monta, repris par sa lourde peine que la vue de l'enfant avait un instant écartée, et, arrivé dans sa chambre, devant sa table de bois blanc, où il n'y avait qu'un buvard, une bouteille d'encre et un bréviaire, il s'assit et cacha sa tête entre ses bras repliés et posés sur la table. Il ne dormait pas. Il ne pleurait plus. Bientôt, il se redressa. Son maigre visage aux yeux de créole, au teint noiraud, aux oreilles débridées et mordues par la bise, à la forte mâchoire de mangeur de pain dur, avait repris sa physionomie de tous les jours, sérieuse, naïve et ardente. Il regarda devant lui, accroché au mur blanc, la photographie d'une petite vieille morvandelle, tout encapuchonnée de noir, dont la figure criblée de rides avait encore des yeux d'enfant. « Bonjour, maman, dit-il, je vais t'écrire. » Il prit, dans le buvard, une feuille de papier blanc quadrillé de bleu pâle et laissa courir la plume. Ce 22 avril 1906, dimanche de Quasimodo. « Maman, je suis triste. Je voudrais m'en aller te voir et prendre un air de neige dans nos montagnes. À l'heure où je t'écris, je te vois. Les cloches sonnent, comme ici, pour la fin de la messe, mais elles ont une réponse dans le bruit des sabots sur la terre gelée. Tu sabotes aussi, petite mère. Tu as rabattu ton capot noir sur ton front. Tu sors de l'église, la dernière, comme d'habitude. Tu penses à ton fils, l'abbé, au petit Henri, que tu conduisais autrefois par la main et qui est descendu, tout seul, loin du village de Grux-en-Glaine, pour tâcher de convertir les gens de la plaine de Nièvre. Tu traverses la place. Tous nos amis sont là, c'est-à-dire toute la paroisse. Hommes, femmes, enfants, personne n'aurait voulu manquer la messe. Il fait grand froid. Le vent souffle du Prenelay et la forêt, comme le bourg, à cause de la neige, n'a plus de chemin que pour une personne. Tout le monde s'en va à la file. Toi, maman, tu rentres dans ta maison, qui est bien la plus étroite, mais qui a été la plus heureuse de Glux-en-Glaine, du temps que nous étions là tous deux. Je suis triste, maman. Je t'ai quittée pour ces gens de Fontenay qui ne me détestent point, mais qui ne vivent que pour la terre. Je n'ai rien gagné sur eux depuis 7 mois que je suis leur curé. Mon cœur va devenir timide à cause de l'abandon où je suis. Et j'ai reçu l'onction sainte, et je suis responsable de toutes les fautes, de toutes les déchéances, de toutes les morts désespérées que j'aurais pu empêcher ou consoler. Ils étaient 7 à la grand-messe ce matin. Tous les rabaissent, leur nature, leur ignorance et leur lecture qui l'entretiennent. L'air qui est plein de mensonges, tout, jusqu'à la vente facile de leurs bœufs. Tu comprends bien ce que je souffre, maman. Il y a beaucoup de mères comme toi qui ont une âme de prêtre et qui l'ont donnée à leurs enfants. Alors, quand tu recevras ma lettre, tu te mettras à prier pour moi. Je sais que tu le feras. Je te crois puissante sur Dieu et sur le monde parce que tu es la pauvreté bonne. Donne-moi de l'aide. Je cherche comment faire et par où commencer. Tiens, je me rappelle que, dans ma petite enfance, les jours de lessive, tu restais là, devant le tas de linge rapporté de la rivière, et qu'il fallait t'éparer au soleil. Tu prenais en pitié la peine que tu allais avoir, tant et tant de tours à faire, tant de fois à te baisser, à te relever, à étendre les bras. Et tu disais, « Mon petit Henri, je ne sais pas par où prendre mon ouvrage, j'en ai trop. » Pauvre maman, pour t'aider, ton petit gars ne comptait guère. Quand j'avais enfoncé 2 piquets dans l'ouche, derrière la maison, je me sentais lourd de gloire, je me couchais sur l'herbe. Maman, je n'ai même pas ce que tu avais. Personne n'a planté un seul piquet pour moi. Envoie-moi une lettre et mets dedans un peu de ton courage. Je vais déjà mieux, je me sens plus fort, rien que pour t'avoir écrit. Je t'aime de toute mon âme, maman. et ne me crois pas découragée. J'avais seulement besoin de pleurer près de toi. » Henri Roubiot. L'abbé glissa la lettre dans une enveloppe, chercha un timbre dans une boîte en carton parmi les images pieuses et descendit l'escalier qui se plaignait toujours, comme nous, sous les plus faibles poids. En passant devant la cuisine, « Philomène, dit-il, vous pouvez maintenant faire réchauffer la soupe. Je vais mettre une lettre à la poste. » « Elle est jolie, votre soupe. C'est comme une bouillie. » L'abbé, tête nue, traversa le jardin, puis la petite place, en biais, jusqu'à la boîte qui formait verrue au-dessous de la fenêtre du bureau de tabac. Comme il revenait, il aperçut à gauche, montant la côte, dépassant l'angle du mur, un homme de haute taille, à la barbe blonde, et qui leva son chapeau et le remit d'un geste indifférent. Il alla vers lui. « Comment allez-vous, Gilbert Cloquet ?»« Pas tout à fait bien, mais mieux, monsieur le curé. Je vous remercie, vous êtes bien honnête. J'ai passé par le Pas-de-Loup voilà un mois et j'ai demandé à vous voir, mais la mère Justamont m'a dit que vous dormiez. Ça aurait valu la peine de me réveiller, monsieur le curé. Mais la bonne femme est comme un chien. Quand elle garde quelqu'un, personne n'approche. » L'abbé Roubiot hésita un instant, cherchant instinctivement un mot qui ne fût pas trop direct, l'expression trop franche de sa douleur et de son reproche. Mais son âme débordait. Il dit, en joignant les mains sur sa soutane, « Si je ne me trompe pas, Gilbert Cloquet, vous n'étiez pas à la messe le jour de Pâques, et bien sûr, vous n'y étiez pas ce matin. » « C'est vrai. Vous êtes pourtant de ma paroisse. » « Que voulez-vous? Il y a si longtemps que je n'y vas plus. Ce n'est pas dans les habitudes d'ici. » L'abbé laissa tomber ses mains, les écarta de son corps, les tendit en avant comme s'il implorait le bûcheron. « Ah, mon ami, quelle souffrance d'être ici le représentant de Dieu que tout le monde oublie, que personne n'aime plus !» L'homme fut ému par cette douleur. Il eut un petit sursaut, dodelina la tête et dit bonnement « Voyons, monsieur le curé, faut pas vous faire de peine pour si peu de choses. On ne va pas à la messe, mais on n'est pas tout de même du mauvais monde. Allons, remettez-vous. L'ancien s'était habitué à nous, vous ferez de même. » Il se sentit regardé par des yeux qui ressemblaient à ceux du Christ cloué sur la croix. Jamais on ne l'avait regardé ainsi. Quelque chose d'intime et d'obscur fut touché en lui et tressaillit comme l'enfant d'une femme, et il devina que c'était sa vie elle-même, tout le fond de l'âme qui ne voit point la lumière, qui était pénétrée par ce regard. Il fut gêné. Il tendit la main à son curé pour prendre congé. « Ne vous donnez pas tant de tracas pour nous, dit-il. Je vous comprends tout de même. C'est comme moi quand le métier ne va pas. Il y a de la peine pour tous dans le monde. Faut croire... Bonsoir, monsieur le curé. Au plaisir. » Et il se mit à monter la pente, tandis que l'abbé rentrait au presbytère. Pendant le temps qu'il mit à franchir les premiers 100 mètres, il ne songea qu'à cette rencontre avec le curé de Fontenay. Une fois même, il se retourna du côté du presbytère, dont on ne voyait qu'une lucarne, le toit fuyant dans le jardin, et le mur de clôture avec la glycine blonde. « C'est un bon petit homme, ce Morvandio, murmura-t-il. Il a le cœur sensible comme une femme. Si ma défunte mère avait été là, elle m'aurait parlé tout comme lui. » Il continua de monter entre les maisons du bourg. Un camarade le salua, un autre encore. Des idées nouvelles chassèrent pour un temps le souvenir des mots échangés avec l'abbé Roubiot. Tout à l'extrémité du bourg, Gilbert entra dans une très pauvre habitation, une masure écrasée sous un toit de chaume qui, lui-même, d'un chevron à l'autre, s'affaissait et formait gouttière. Un homme jeune achevait de manger, assis devant une table de vieux cerisier, entaillé par le couteau, usé par les mains, les plats, les coudes et les torchons de 2 ou 3 générations. Une femme brune et fraîche, qui avait les pommettes rouges, comme celles qui viennent de se fâcher ou de pleurer, essuyait la table d'un geste circulaire, les deux mains appuyées sur le torchon roulé. Son mari baissait la tête et achevait de manger du pain. À côté de lui, il y avait encore une bouteille demi-pleine et une assiette où quelques rondelles de pommes de terre nageaient dans le vinaigre et l'huile. « Bonjour, Durgé, tu n'as pas l'air d'avoir plus de fricot que moi à manger. » Le jeune homme releva sa tête petite, coiffée jusqu'aux oreilles d'un grand chapeau de feutre mou. Durgé, très jeune, très sanguin, et dont les épaules tombèrent d'une pièce avec aisance quand il se redressa, avait une barbe rousse frisée sous le menton, une courte moustache d'adolescent, des lèvres très rouges, le nez trop court, le front bas. Et on ne pouvait dire qu'il était beau, mais son regard, droit, clair comme un courant d'eau sans cailloux ni vase, disait la force et la simplicité. C'était un primitif. On devinait, dans ses yeux pleins d'énergie au repos, que l'homme n'avait qu'une parole, qu'un sentiment, qu'une idée à la fois, et qu'il serait une puissance d'un dévouement absolu pour ceux qui auraient conquis son affection et persuadé son esprit. À l'interrogation plaisante de Cloquet, il répondit « Le printemps n'est pas bon. Si l'écorce ne va pas, en mai, je crois que nous n'aurons pas de quoi élever la famille qui vient. » Il eut un sourire qui éclaira sa face rustique et, d'un mouvement des yeux, désigna la jeune femme dont la taille était lourde. « Ça paraît, » répondit Gilbert Cloquet, riant aussi. « Mais vois-tu, Durgé, le malheur des malheurs, c'est qu'il n'y a plus les foins à couper. » « Non, des machines partout. » « Excepté chez M. Michel. Moi, je fauche ces foins depuis que j'ai quitté la vigie, depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais si je te faisais embaucher ?»« Je te dirais merci. Mais tu te trompes, vieux. Ils sont tous les mêmes. Il va acheter une faucheuse. » « Tonnerre ! » fit Gilbert en s'approchant, comme s'il allait se jeter sur Durgé. « Qu'est-ce que tu dis là ?»«
Ce que je sais. »
« Il n'en a jamais eu ?»«
Il va en avoir. » »«
Non, il ne voudrait pas m'enlever mon travail. 12 jours de bonne paye, c'est pas possible, Durgé. »
« Voilà, » dit le jeune homme, se courbant pour raconter l'histoire et faisant le geste de l'humanité conteuse, les coudes appuyés sur les genoux, les mains libres, la tête avançante. À la foire de mars, il a rencontré le marchand de machines et quelqu'un l'a entendu qui demandait les prix. Oui. Combien le grand modèle? Combien la marque américaine? La vôtre? Est-ce une preuve, Cloquet, ou bien veux-tu que je t'en dise plus long?
Je veux que tu viennes avec moi. Nous irons trouver M. Michel. Il nous écoutera, je le connais. Non, je te réponds que c'est une menterie.
Durgé, sans se redresser, regarda de côté la jeune femme qui était devenue grave en entendant parler les hommes. Elle dit, très bas, en serrant le linge entre ses mains comme si c'était le gain de 2 semaines qu'on voulait lui enlever,
« Il faut y aller, et puis surtout ne pas céder sur les prix. »«
Ne crains rien, » dit le mari dont les yeux tout à coup devinrent ardents. « Tu me connais. » En un moment, les deux hommes furent l'un près de l'autre sur le seuil. Ils touchèrent ensemble le bord de leur chapeau en l'honneur de la femme qui, du fond de la maison, les suivait du regard, songeant aux choses de l'été prochain. Puis ils descendirent et disparurent dans un chemin qui tournait autour du bourg et qui rejoignait la route un peu plus bas. Ils étaient de même taille, mais le vieux était plus élancé, plus mince. Il avait en lui une élégance non apprise, comme il arrive parmi les arbres de futaie.
« Si tu veux, dit-il, nous prendrons avec nous 19. C'est un ancien qui attend comme moi après les foins du château. Il y a même 22 ans qu'il les fauche, lui aussi. »
Un signe d'assentiment fut la réponse du jeune. Devant eux, au bas de la pente, ce n'étaient que des prés où l'herbe grandissait, déjà drue et luisante. Toute parcelle de terre, comme un vase trop étroit, tendait sa fleur ou sa gerbe verte. L'eau coulait en dessous, invisible, et par-dessus, la grande rayée du soleil et du vent passait aussi, déroulant les feuilles, les pétales, les tiges toutes pleines de sève. les hommes calculaient l'étendue que l'herbe couvrait, ses profondeurs, ses dentelures entamant la forêt. Le souvenir des dernières fenaisons leur venait à l'esprit, puis ils considéraient plus distraitement les cimes des bois, rouges encore de la résine des bourgeons, pâles par endroits, là où le sol dur avait mis en retard les chênes de la forêt. Le village du Pas-du-Loup était caché à quelques centaines de mètres de la lisière. Gilbert et Durger tournèrent autour du château, prévinrent 19 qu'ils trouvèrent chez lui, dormant au coin de la cheminée. Le vieux maçon, malgré l'apprentissage, n'avait jamais été bien occupé à construire les maisons et à réparer les ponts du pays. Il n'était employé par les maîtres maçons que dans les temps de grande presse, et on lui confiait volontiers le soin de gâcher le mortier. L'homme avait plus de 60 ans. Il était patriote, mauvaise tête, sourd un peu, capable de résistance en parole, mais d'une prodigieuse inertie quand le chef de chantier ou le travail ne lui plaisait pas. Il était pauvre aussi. Et Gilbert Cloquet pensait que, comme un autre lui-même plus âgé, ce 19 méritait d'être plein, aidé, embauché pour la fenaison. Les hommes, côte à côte, remontèrent du côté du château de Fontenaye, traversant la pelouse qui le séparait de la forêt. Du haut de la terrasse, que le soleil avait quittée depuis midi, pour éclairer l'autre façade et la cour de l'habitation, Renard, flânant et important, aperçut le groupe qui se dirigeait vers l'escalier de pierre. « Eh, vous autres, qu'est-ce que vous venez faire encore ?»« On a à parler à Monsieur Michel, » dit Gilbert sans ralentir le pas. « Il est malade, il ne pourra pas vous recevoir. Je ne sais pas ce qu'il en est déjà venu de coureurs et de journaliers pour le voir. On dirait en vérité que le temps des maîtres comme lui est à tout le monde. Dites donc, Renard, ce n'est pas à vous qu'on a affaire. » Michel, entendant un bruit de voix, apparaissait au coin du château et comprenait sans peine l'objet de la discussion. Il était pâle et essoufflé pour avoir fait 30 pas. Il fit signe à Gilbert et aux deux autres hommes. « Venez !» et retourna dans la cour d'entrée, plus chaude et plus ample de décor que la terrasse. Il y avait là, en avant de la porte, un rectangle long, dallé et cimenté, que protégeait un toit de tôle porté par 3 colonnes blanches. Ce péristyle, élevé d'un demi-pied seulement au-dessus du sol, avait été construit par la grand-mère de Michel, vieille femme à qui plaisait la tiédeur de l'abri et l'éventail grand ouvert des champs qui montaient vers le bourg, coupés en leur milieu par le double buisson de hêtres de l'avenue. Des fauteuils en rotin, des chaises de jardin étaient rangées le long du mur. Michel attendait, debout, les 3 journaliers de Fontenaye. Ceux-ci, 2 au moins d'entre eux, connaissaient bien le chemin. Ils le foulaient avec une espèce de sécurité et d'orgueil, comme s'ils avaient pensé « Renard a eu le dessous, nous sommes plus que lui. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier qu'on nous traite ici avec honneur. » Tous 3 ensemble, ils saluèrent, du chapeau et de la tête, et Gilbert, qui précédait un peu les autres à titre de familier et de causeur facile, demanda « Vous êtes malade à ce qu'on dit, monsieur Michel. Faut pas nous recevoir si ça vous gêne. » Le jeune homme serra les 3 mains qui se tendaient. « Venez tout de même. Tant que je serai debout, je serai à votre service. Qu'y a-t-il ? » Aucun des 3 hommes ne répondit à cette interrogation trop hâtive. On devait s'asseoir d'abord et causer de ce qui n'était point important. Ils prirent des chaises que Michel leur désignait, s'assirent, émirent quelques profondes sentences sur le temps qu'il avait fait, puis Gilbert, tirant sa barbe fauve et regardant le châtelain, « Monsieur Michel, c'est-il vrai que vous avez pensé à faucher avec une faucheuse ?»«
J'y ai pensé, en effet, Gilbert, mais je n'ai rien décidé. »«
Vous y pensez, ça n'est pas bien. »«
Pourquoi ?»«
Monsieur Michel, parce que ça sera contre nous. Est-ce que j'ai mal travaillé ?»«
Et moi, dit plus haut le père 19, est-ce que vous n'avez pas été content de moi les années passées ?» Depuis les temps anciens que je travaille vos prés.
Faut pourtant que l'ouvrier vive, ajouta Durger en avançant sa tête jeune comme pour charger sur l'ennemi. La machine vole le travail de l'ouvrier.
Vous ne ferez pas ça, monsieur Michel, ça ne serait pas la justice.
Ni votre intérêt, voyons, ni la paix.
Les trois voix s'animaient. Les trois hommes rapprochaient leurs chaises de celles de Michel, qui attendait et regardait en silence celui qui parlait.
Il y a assez de bourgeois qui ne font plus faucher. Vous êtes le dernier. Votre père et votre grand-mère nous ont fait travailler.
N'achetez pas de machine, monsieur. C'est votre intérêt, je vous avertis.
Non, Durger, interrompit Gilbert. Il faut dire à cause de nous, par amitié pour nous, pour nous donner du travail, n'achetez pas de faucheuse.
12 journées au moins, peut-être 15 ou 20 de perdus si vous le faisiez.
Il a raison, monsieur, abat les machines, donnez-nous du travail.
Dites, monsieur, donnez-m'en.
Ardent, partagé entre la crainte de déplaire, la colère, la pensée des jours de chômage forcé, les trois faucheurs interrogeaient le maître de l'herbe, et si les yeux des deux anciens ne menaçaient pas, il y avait une révolte et un défi dans le regard du plus jeune, de Durger au poil roux. Les lèvres avaient fini de parler, mais elles restaient entr'ouvertes, prêtes à protester ou à se plaindre. Les trois hommes avaient le même geste et ne différaient que d'expression. Ils se penchaient en avant comme pour recevoir le pain.
« Écoute, Gilbert, et vous, 19, rappelez-vous ce que je vais vous dire. À cause de vous, qui êtes de vieux amis de la maison, je renonce à acheter cette année une machine, mais à une condition expresse. Le prix de la journée ne dépassera pas 3 francs. »«
C'est ce qui est dû, » fit Gilbert.
« Le syndicat s'en contente pour les travaux de printemps, » dit le père 19. « On peut conclure. »«
3 francs 50 !» dit Durger vivement. « Pour les travaux durs, comme les prêts, on ne demande pas moins. »«
Je paierai 3 francs, rien au-delà. Vous pouvez calculer que 10 faucheurs, à 3 francs chacun, pendant 15 ou 18 jours, c'est le prix de la machine même que je vous donne. » Je ne renonce à mon idée que pour vous, dans votre intérêt. Moi, je fais une opération peu raisonnable. Mais il me suffit qu'elle soit à votre avantage. Est-ce convenu ?
3 francs 50, dit Durger. Je ne travaille pas à moins.
C'est bien. Je n'embauche que Gilbert et 19, dit Michel en se levant. Je vous regrette, Durger, puisque vous êtes un bon travailleur. Au revoir.
Les deux anciens étaient contents et n'osaient pas trop le montrer. Durger, obstinément silencieux, l'air dur et insolent, fit à peine un signe de tête pour prendre congé de Michel de Meximieux. Les trois compagnons remontèrent ensemble l'avenue. Ils ne commencèrent à parler entre eux que quand ils furent déjà loin du château. Michel, qui les suivait du regard, attristé d'un désaccord sans cesse renaissant et qui tenait aux défiances des âmes bien plus qu'à des raisons d'argent, vit que les hommes discutaient et que Durger, contraint tout à l'heure et muet, gesticulait avec violence entre les deux anciens qui se taisaient à présent. Âme sans force ou âme révoltée, que faire? C'est tout le monde, toute la campagne et toute la ville. Gilbert a-t-il compris mon intention? Et, en somme, ma générosité? Peut-être. 19 n'a sûrement rien vu. Durger s'en va avec un argument de plus contre les riches. Il croit que j'ai voulu l'exploiter. Il est fier de n'avoir pas cédé. Quelles paroles pourront toucher ces cœurs que les actes n'émeuvent pas? Quel est le chemin? Oh, que je le ferais volontiers! Ne dirait-on pas que nous appartenons à une autre humanité que... Une chose est entre nous, et je ne sais pas de quel nom la nommer, ni comment la briser. J'avais cru, en cédant, faire un sacrifice digne de retour. Il jeta un regard sur l'avenue maintenant déserte.
Que m'importe, après tout, mon devoir ne durera pas. D'autres accompliront l'œuvre que j'ai à peine commencée et si dure. D'autres.
Une image se leva dans son esprit, celle d'une jeune femme aux cheveux de 2 or. Il la vit, là, tout près, dans la cour sablée du château, et il avait une si puissante faculté d'évocation, une mémoire si parfaite des objets, des couleurs et des mouvements, que ce fut réellement Antoinette Jacquemin qui passa devant lui, sans le regarder, se dirigeant vers les servitudes et la ferme, saluée de loin par les hommes qui labouraient le champ d'en face, comme celle en qui l'avenir de tout le domaine était vivant. « D'autres prendront ma place, et ils ne se souviendront de moi que rarement. » Il se mit à pleurer, enfoncé dans le fauteuil d'écorce, les yeux fermés, sûr que personne ne serait témoin de sa faiblesse et ne la troublerait. Michel de Meximieux se savait très malade. Depuis son adolescence, il avait une maladie de cœur, insoupçonnée ou non avouée par les médecins, et que les émotions violentes des derniers mois venaient d'aggraver subitement. Au retour de Paris, inquiet des crises de suffocation qui le saisissaient, de l'extrême faiblesse fiévreuse où elle le laissait, et que la volonté ne suffisait plus comme autrefois à dominer, il avait consulté à Corbigny et à Nevers. Un premier médecin avait dit « Ce n'est rien, mais pas trop d'inquiétude, n'est-ce pas, ni trop d'imagination. » Un second, devant l'insistance de Michel, qui voulait savoir, avait été moins discret, et le dialogue s'était terminé sur ces mots. « J'ai besoin de savoir si je vivrai. Je suis de ceux qui veulent connaître l'ennemi, et j'espère faire bonne contenance. Parlez-moi. » « Eh bien, monsieur, avec ce que vous avez, un homme heureux comme vous peut vivre longtemps. » « Et si je n'étais pas heureux ?» Le médecin s'était tu. « Alors, je suis perdu. » Lui-même, il avait prononcé la sentence. Mais dès le lendemain, dès le soir, et depuis lors tous les jours, il refusait d'y croire. Elle se dressait devant lui et il la chassait. Elle revenait, et alors, pour la convaincre de mensonge, il appelait à son secours sa jeunesse qui voulait vivre, son ambition noble et qui lui mériterait sans doute la grâce de vivre, son effort pour relever tout ce peuple abaissé de la campagne. Lutte formidable, sans témoin, sans confident, sans consolation d'aucune sorte, d'où il fallait sortir tout à coup pour donner un ordre, recevoir un fermier, un chef de culture, une visite. Elle se renouvelait souvent. Mille causes, sans cesse renaissantes, criaient autour de lui. « Tu vas mourir inutile, Michel de Meximieux, et rien ne sera de ce que tu as rêvé. » L'occasion, c'était une souffrance physique. C'était le souvenir des conversations qu'il avait eues dans ce fumoir ou à Paris avec son père. C'était la cruelle pensée de la Vaucreuse et d'Antoinette Jacquemin. C'était la vue des champs, des bois qui allaient bientôt passer en d'autres mains, ou encore, comme à présent, l'ingrate réponse des hommes, un refus d'arrangement qui montrait combien les âmes étaient malades de haine. Le dimanche avait dispersé les travailleurs. La chaleur écrasait les importuns. Michel souffrait. Les heures passaient. Mais il en était arrivé à ce point où la douleur, longtemps maudite, est enfin acceptée, et commence aussitôt à perdre son pouvoir. Ce long après-midi de printemps, cette solitude, cette immobilité, ces larmes qui séchaient, ce visage dont elle n'avait pas effacé l'énergie et qui retrouvait, après elle, une sorte de calme et de sourire, c'était tout l'appareil et tout le visible d'une victoire prodigieuse, un homme accepté de mourir. Il se retrouvait dans la tradition de ses pères, soldat et homme de haute foi. Il était brave plus que les autres, il ne tremblait plus pour lui-même et il avait déjà au-dessous de lui toute la terre. Il disait « Assez de larmes, je n'en verserai plus. Cela fait bien la dixième fois que je pleure sur moi, c'est neuf de trop. Heureusement, j'ai senti aujourd'hui que, dans ma peine, il y a un regret de ne pas m'être dévoué. Cette peine-là, je l'emporterai. Ils ont rarement, ces pauvres, des dévouements qui soient bien à eux et tout entiers. Oh, l'admirable féodalité que le monde pourrait être! Une âme seigneuriale, c'est-à-dire sainte, par quartier, pour défendre les timides. Un homme d'armes, une citadelle. Ils auront l'abbé à Fontenay. Oui, j'ai confiance.
Et puis, qui sait de quel allier sort le muguet, dont une branche emplit de parfum tout un bois ?
Personne.
Il jaillit de la feuille morte. Un être rédempteur peut se lever parmi eux. Il en faudra des pauvres pour relever les pauvres. Et c'est pour cela, peut-être, que moi, je m'en irai le premier, peut-être.
Le soleil rasant le sable pénétrait sous la toiture de tôle et éclairait Michel, qui se reprenait, comme autrefois, à regarder longuement la lumière descendre. Quand le valet de chambre vint, vers 6 heures, lui demander un ordre, il ne put s'empêcher de dire
« Monsieur le comte est mieux, il a sa figure d'habitude. »
Le dimanche finissait dans le calme. Quelques cris descendaient encore du village où les buveurs, en quittant les auberges, essayaient de chanter. Pas de vent. Les braconniers savaient qu'il n'y aurait pas de lune. Quand la nuit eut dragué dans ses plis le reste d'or qui traîne sur les champs vers le soir, il y eut une heure fraîche où les herbes commencèrent à boire la rosée. Le bruit des pas s'assourdit et la douceur de l'air, pénétrant par les portes ouvertes, fit venir sur le seuil des femmes et des enfants qui regardèrent devant eux, émus par la grâce inconnue, et qui dirent « Il fait doux !» L'abbé Roubiot, qui se promenait dans son allée de buis, sentant le parfum qui montait de la forêt, ferma son bréviaire sur son pouce, leva les yeux et murmura
« Quand même ! Alléluia !»
Sur les hauteurs de la Vigie, le vieux fortier, qui chaque soir voyait les étoiles et les nuages glisser au-dessus des bois, remarqua que le ciel était saturé d'eau, comme si toutes les étoiles pleuraient, et il dit
« J'aurai encore cette année 60 chariots de foin. »
Au bord de l'étang de Vaux, dans le golfe qui s'enfonce tout aigu au nord-ouest, un homme tendait des nasses. Chaussé d'espadrilles, le pantalon relevé jusqu'au-dessus du genou, il prenait un de ses longs mannequins d'osier cachés dans un fourré du bois, écoutait, jetait un regard sur la rive opposée, puis, à peu près sûr de n'être pas épié, la forêt était sombre et les arbres trempaient dans l'eau leurs branches à demi feuillues, il descendait la berge vaseuse, titubait en piétinant les vases molles, se courbait et posait l'engin parmi les roseaux. Supia, gueule de renard, allait saisir, dans la cache où il les mettait à sécher, la 6e nasse à anguille, lorsqu'il entendit un bruit de branches remuées à sa gauche et assez près. D'un mouvement souple, il s'agenouilla aussitôt sur le sol, posa la nasse avec précaution et se coucha à côté. Le coassement des grenouilles, le crissement des grillons qui liment du fer à l'entrée de leur caverne, la plongée d'un poisson sautant après une étoile, remplirent la nuit. Puis le chant du loriot, très doucement modulé, dans la même partie du bois où les branches avaient remué, fit se relever le braconnier qui appela en sourdine.
« C'est toi, Durger ! Tu m'as fait peur !»
Sans précaution et refoulant le taillis du ventre et des épaules, le jeune journalier arriva droit à Supia et, dans l'ombre, Supia vit luire les dents blanches et les prunelles de Durger qui riait.
« Quand je ne t'ai pas trouvé à la maison, j'ai pensé que tu pêchais l'anguille, gueule de renard, et je suis venu jusqu'ici. J'ai vu le comte. Est-ce qu'il est malade, comme on le dit ?
Oui, il m'a semblé qu'il respirait mal.
Je ne le pleurerai pas. C'est un bourgeois qui prendra de l'influence ici. Il a le chic pour faire croire aux hommes qu'il s'intéresse à eux. S'il fait faucher ses foins à la main, cela fait encore 10 hommes qui se croiront ses obligés. Combien t'a-t-il offert ?
3 francs.
Les 2 vieux ont accepté. Mais moi, j'ai refusé, ils étaient furieux.
Parfait. Supia se mit à rire et tendit son museau à la clarté pâle de la nuit, comme une bête qui flaire le vent.
Alors, Durger, l'affaire est dans le sac ?
Parbleu, c'est ce que je venais te dire.
Je préviens cet imbécile de Ravoux que j'échaufferai en parlant de justice et d'exploitation patronale. Il défend à Cloquet et à 19, au nom du syndicat, d'accepter 3 francs. Il va lui-même trouver le patron qui s'emporte, qui parle de promesses, de paroles données.
Je t'en réponds,
il a dit qu'il ne céderait pas. Et le patron achète sa faucheuse. Et le Meximieux est un peu plus détesté. Allons, mon vieux, cela va bien. Je vais jeter ma dernière nasse. Il prit sur l'herbe la cage d'osier toute poussiéreuse de vase sèche, la souleva et s'avança en s'écartant un peu vers la gauche jusqu'à l'endroit où la rive, dominant d'un pied l'eau de l'étang, permettait de jeter aisément la nasse entre les roseaux. Il revint en essuyant ses mollets tachés de boue, reprit ses sabots qu'il avait laissés au pied d'un baliveau et frappant sur l'épaule de Durger. « Il y a aussi un camarade qu'il faut abattre, Durger. Tu sais bien lequel. J'ai entendu des syndiqués, même des jeunes, qui me reprochaient la raclée que je lui ai donnée. Il aurait vite un parti, ce vieux-là. Il est malin. » « Tu ne sais donc pas les dernières nouvelles, comme disent les journaux ?»«
Quoi donc ?»«
La fille est complètement ruinée. Elle doit à plus de 20 personnes du bourg ou de la ville. Avant un mois, l'huissier sera chez elle. » Je veux bien, mais le bonhomme ne sera pas abattu pour cela. Sa fille, c'est comme un nid d'écureuil dans le tronc d'un arbre, ça ne le tue pas. » Durger hocha la tête, l'oreille dressée, écouta un moment avant de se remettre en marche. « Il y aura tout de même les dettes qui le gêneront, » dit-il. Les deux hommes, à la file, s'enfoncèrent dans le bois. La pointe de l'étang de veau, où les rides qu'avait faites la chute de la nasse s'étaient déjà élargies, puis étalées sur les berges en vagues minuscules, continua de refléter la grenaille des étoiles. Tout dormait dans les fermes. Des canards en pâture, au loin sur les grandes eaux, appelaient des bandes sauvages qui passaient, invisibles. Gilbert Cloquet était couché. Michel de Meximieux lisait dans sa chambre, la fenêtre entr'ouverte. Leurs deux noms continuaient d'être prononcés tout bas et associés par la haine perspicace du plus mauvais drôle de Fontenelle.